se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui va prendre le temps, en tout cas d'essayer de ne pas aller trop vite, avec Aveline Carmois et Benjamin de la Gâtinais à la technique. Et assisté de Stéphane Combe, c'est Hélène Bisiot qui réalise l'émission. Avec bien sûr une petite humeur car les peintures viennent d'être refaites dans bon nombre de mairies, le rose est un petit peu moins tendance et au sommet de l'État, on a dû estimer que le vert contrastait trop avec les ors de la République. Résultat, moins de nuances dans les coloris et sauf quand même 50 nuances de gris au cul des pots d'échappement, ça ne bouge pas trop. Qu'à cela ne tienne, le vert s'épanouira à Grenoble, une touche de vert étalée en fond de la vallée de l'Isère, ça peut faire joli dans le paysage. Surtout durant la semaine du développement durable. Et 1 et 2 et 3 et 4 ministres de l'Environnement en 20 mois, des ministres à l'obsolescence programmée contre laquelle ils sont censés lutter. Comment voulez-vous motiver les citoyens ? C'est vrai que le job est quand même très moyennement durable. Pas facile dans ces conditions de s'inscrire dans ce long terme que réclame pourtant l'écologie. D'aucuns d'entre vous diront que ça n'a rien d'étonnant, car finalement l'écologie ça ne casse pas des briques. D'autres ajouteront que l'écologie est à l'image de la chanson de Brassens, « Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre ». De là affirmer que se faire mener en bateau incarne pour cette discipline une voie royale. Il n'y a qu'un pas, mais laissons les grincheux à leurs commentaires. D'autant que pendant ce temps, le GIEC continue de jouer les Cassandres. Ah oui, vous savez bien, cette princesse troyenne que l'on n'écoutait jamais. Mais bon, elle était dans un cheval creux, donc elle crachait son malheur sur la cité. Et la montée annoncée des eaux pourrait bien faire le bonheur des hippocampes et surtout des baleines. Baleines qui, depuis le 31 mars, on le vend non pas en poulpe mais en poupe, mais car la Cour internationale de justice, à la demande de l'Australie, vient en effet de condamner le Japon, l'un des derniers pays, à pratiquer la traque des baleines et de lui signifier que ça commence à bien faire, c'est assez, on lui dit. Oh, c'était pour la bonne cause, monsieur le juge. C'était pour des raisons scientifiques, plaide l'avocat japonais, dissimulant maladroitement de gros bateaux-usines derrière de misérables éprouvettes. Alors certes, la défense du Japon n'était ni bonne ni mauvaise, elle était juste hypocrite. L'Empire du Soleil Levant pouvait ainsi mettre en avant un nombre colossal de publications, 4 articles scientifiques en tout et pour tout en 16 ans, 4 pauvres articles censés justifier le harponnage de milliers de cétacés. Soit en moyenne 1700 cétacés par publication, donc c'est une broutille. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? En science, l'important c'est de bien vérifier ces données en renouvelant ses expériences. Alors on se réjouira de voir que l'interdiction de massacrer les baleines a été votée par le score sans appel de 12 voix contre 4, ce qui montre que apparemment la défense de la biodiversité gagne du terrain, jusque dans les prétoires des plus hautes juridictions. Bon, seul petit bémol, parmi les 4 opposants de l'interdiction, on compte un juge français. Oui, ça fait un petit peu désordre. Pour que la France devienne véritablement la patrie du développement durable, il faudra peut-être patienter encore un peu. Alors certes, Ségolène Royal, l'ancienne nouvelle ministre de l'écologie, qui connaît bien d'ailleurs les dossiers environnementaux, est recyclée, c'est donc un geste fort pour la planète. Les Verts, avec ce côté un peu harakiri permanent dont ils ont secret, ne voulaient pas du poste. Comment faire une transition énergétique, qui est le gros morceau environnemental du quinquennat, avec de l'austérité ? C'est à la nouvelle ministre de jouer. On la sait d'ailleurs opposée à la notion d'écologie punitive. Faut-il en déduire que l'écotaxe a peu de chances de renaître de ses cendres encore chaudes de portiques calcinées ? Ce serait alors un geste fort, non pas pour la planète, mais pour ceux qui ont le bonnet rouge, qui ont le bonnet plutôt près du bonnet.
Dites-le avec des fleurs, dites-le avec des plantes.
Et oui, car dans cette émission, donc on va parler des femmes qui sont face à l'environnement. On va aller au Bangladesh, on va aller au Pérou, on va aller au Tchad. On va s'intéresser aussi à des jeunes avec Stéphane Co. Mais tout de suite, eh bien, si on le dit avec des plantes, eh bien, c'est qu'on va retrouver Jean-Marie Pell. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous allons parler d'une baie chinoise qui s'appelle la baie de goji et qui est assez en vogue actuellement.
Très à la mode. C'est un médicament chinois. Alors en Chine, il est censé être aphrodisiaque. Comme les cornes d'un rhinocéros,
oui, c'est une horreur
très,
totale,
très consommée. Et
non, mais c'est aussi inefficace que le.
Non, c'est plus efficace parce qu'il est censé aussi augmenter la longévité. Oui. Vous savez qu'il y a un autre système pour augmenter la longévité. Vous connaissez ? Manger très peu. Moins vous mangez, plus vous vivez longtemps. Et l'inverse est vrai aussi. Plus vous mangez, moins vous vivez longtemps. Bon, mais ce n'est pas la bellegogie, ça. Ça, c'est de la diététique. Alors, c'est éprouvé sur des animaux. Il y a beaucoup de tests là-dessus. C'est très intéressant. Donc, mangeons peu. Alors, cette bellegogie est une baie qui vient d'une espèce qui est aussi présente chez nous, fleur violette. Et les baies sont rouges, vifs, allongées et très jolies. Mais ça, vous ne les verrez jamais. Parce que vous aurez la baie toute ratatinée qu'on aura fait sécher naturellement. Et c'est sous cette forme-là qu'on la consomme.
Alors Jean-Marie, quel est son intérêt ?
C'est de contenir beaucoup de micronutriments, donc des nutriments à toute petite dose, notamment des vitamines, la A, la B, la C, des oligoéléments métalliques pour la plupart, du potassium, du phosphore, du magnésium, du calcium,
du zinc,
fer, du zinc. Ah, ouais, vous l'avez deviné, tout à fait. Et puis alors, il y a des protéines, donc c'est nutritif. Il y a des protéines, 13% dans la baie. Et puis, il y a des acides gras oméga-3.
D'accord.
Donc, vous voyez l'intérêt au point de vue nutritionnel de cette fameuse baie.
Mais c'était longtemps une plante suspecte.
Alors, c'était longtemps une plante suspecte parce que les baies ressemblent un peu aux baies de belladone. En plus allongé. Tout ce qui ressemblait aux baies de belladone a toujours été suspect. Ça a été le cas des tomates en particulier, et qui ont été très très longues à rentrer dans l'alimentation lorsqu'on les a ramenées d'Amérique du Sud. C'est une crainte qu'on a que cette toxicité effroyable de la belladone soit présente aussi dans les plantes qui lui ressemblent. C'est ça l'idée. Alors en fait non, parce qu'il n'y a pas d'alcaloïde de type belladone dans la bellegogie, donc elle n'est pas du tout toxique, elle n'est pas dangereuse. Et ses propriétés sont intéressantes, très étudiées par la science contemporaine.
Et principalement, c'est un antioxydant.
C'est un puissant antioxydant, c'est un antiradicaux libre. Les radicaux libres, ce sont les déchets des aliments dans l'organisme, qui sont des molécules très agressives, qui contribuent au vieillissement des cellules et des tissus, et qu'il faut neutraliser. Et ces antiradicalaires qui sont présents dans cette bellegogie ont cet effet-là. Il diminue donc le vieillissement des tissus. Et puis elle est immunostimulante aussi, donc elle vous permet de faire face à un coup de froid par exemple, qui, si vous êtes bien protégé par des immunostimulants, votre immunité est élevée, vous n'attrapez pas une bronchite ou une laryngite ou quelque chose de ce genre-là.
Est-ce que cette baie est inscrite dans la pharmacopée ?
Non, elle n'est pas inscrite ni dans la pharmacopée française ni dans l'européenne, mais il est vrai que c'est un condiment ou un complément alimentaire.
Oui.
C'est les deux, c'est un peu ça. C'est un complément alimentaire, donc ça n'est pas classé dans les médicaments.
Mm-hmm.
Ce sont des produits qui n'ont pas besoin d'avoir subi les mêmes autorisations de mise sur le marché que les médicaments. Et c'est à ce titre-là qu'elle est vendue partout, et pas seulement, naturellement, en pharmacie.
Alors, une fois de plus, quand nous disons cela, il y a peut-être des contre-indications. Donc il ne s'agit pas d'aller se jeter sur cette baie de goji. Il peut y avoir différentes contre-indications en fonction des autres.
Vous l'avez tout à fait imaginé. Si vous prenez des anticoagulants, après une embolie par exemple, elle est contre-indiquée. C'est une contre-indication stricte. Pas très connu. Nous sommes obligés, en pharmacie, de le dire, de demander aux gens s'ils ne prennent pas les anticoagulants. Et dans ce cas, il ne faut en aucun cas prendre la bellegogie. Mais ça, ce n'est pas connu de ceux qui la vendent. On vend un complément alimentaire et ceux qui le vendent ne savent pas toujours. D'où l'intérêt aussi d'être pharmacien parfois,
oui.
N'est-ce pas ?
Et aussi être un peu écologiste, parce que cette bellegogie, si tout le monde se met à en prendre, et en particulier les Chinois,
oui.
Quand même de plus en plus maintenant cette classe moyenne de 200-250 millions d'individus,
oui.
Je ne dis pas qu'ils vont tous se ruer dessus, mais il y a quand même des limites.
Oui, c'est le cas des plantes très utilisées en Chine. Les plantes qui sont très très utilisées en médecine chinoise sont aujourd'hui menacées. C'est vrai pour la bellegogie et c'est vrai de la rhodiole dont nous parlerons prochainement.
Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Un monde en marche. Dans quelques instants, on va poursuivre ce voyage avec un point sur le climat mondial avec Frédéric Danhé et trois femmes face au climat au Tchad, au Pérou et au Bangladesh.
La vie, elle a passé et on l'a comme pas vécu ou peut-être pas assez, pas comme on aurait dû. Peut-on encore imaginer de nouvelles étendues, des rivières à traverser et même des fleuves en cru? C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini, on peut encore se retourner. Je ne me rappelle plus, est-ce qu'il a bien pu clocher? À un moment, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être dû prendre le temps de souffler, de profiter de la vue. C'est pas fini, on vient à peine de commencer, c'est pas fini. On peut encore se retourner, c'est pas fini. On peut encore se réparer.
Homme de Brest du Finistère, c'était Miossec. On vient à peine de commencer et c'est bien normal que France Inter, avec un homme de qualité, bien soutienne cet album. Nous allons soutenir aussi Frédéric Denré. Bonjour, cher Frédéric Denré.
Bonjour, Denis.
Alors, vous êtes Frédéric. Je vais rappeler que vous avez écrit l'Atlas du réchauffement climatique, donc on va pouvoir en parler dans quelques instants. Vous êtes au salon Terre et Lettres, hein, à La Rochelle, je tiens à le dire, parce que c'est quand même un très bon salon. Là, on avait fait l'émission donc une année. Vous êtes bien entouré. Je crois qu'il y a Pierre Rabhi, il y a Gilles Clément, vous-même et puis d'autres personnes. Donc, ils font un boulot formidable depuis des années. Donc, ce salon Terre et Lettres, là où vous êtes, en plus, c'est quand même très, très agréable. Deuxième volet du cinquième rapport du GIEC. Et donc, on va faire le point avant d'écouter donc, ces trois femmes de trois pays différents, avec les conséquences directes sur leur quotidien. J'ai presque dire qu'il n'y a rien de nouveau, mais il y a quand même une accentuation de ce que l'on connaît, donc une aggravation des risques.
C'est ça. Il n'y aura rien de nouveau pour nos auditeurs. Il n'y a rien de nouveau par rapport, enfin, de fondamentalement nouveau par rapport au rapport précédent, si ce n'est qu'effectivement, les risques déjà connus ont été accentués et qu'il y a même un niveau de risque supplémentaire qui a été rajouté, une espèce de sur-risque, tellement l'incertitude a diminué. Et pour faire très très court, hein, ce que dit ce rapport, ce sur quoi il accentue le trait, c'est il y a une atténuation, si vous voulez, des différences entre le pôle et les équateurs. Il y aura les pôles et l'équateur, il y aura une atténuation entre les saisons et une modification globale de tout le système hydraulique de la planète.
Alors l'accès à l'eau, ça va se traduire comment ?
L'accès à l'eau, ben c'est on l'a souvent dit dans l'émission, c'est pas tant la température que l'eau qui va compter. Globalement, dans l'hémisphère nord, en particulier en Europe, en Amérique du Nord, on sera plus confronté qu'avant aux inondations. Trois fois plus d'Européens devraient être confrontés aux inondations. Par contre, dans les zones où il y a déjà peu d'eau, ben il risque d'y en avoir encore moins. Le GIEC estime qu'avec un degré supplémentaire de plus, c'est 20% de ressources en eau accessibles en moins. À la fois en surface, en volume et en qualité. Donc les pauvres seront encore plus touchés et les riches, c'est-à-dire nous, seront peut-être encore moins touchés. En tout cas, nous, ce qui va nous frapper, c'est l'abondance d'eau au moment où on n'en a pas franchement envie.
En ce qui concerne les cultures, que peut-on dire ?
Les cultures, globalement, les rendements risquent de baisser de 2% tous les 10 ans, alors que, cher Denis, comme vous le savez, la demande augmente, la demande en céréales notamment, c'est plus 14% tous les 10 ans. Les baisses de rendement devraient toucher en particulier le maïs et le blé, peut-être un peu moins le riz, peut-être pas le sorgho, en tout cas c'est
alors,
le maïs.
Parce qu'en fait, ils sont à la fois limités par l'eau, parce que ce sont des plantes très gourmandes en l'eau. D'ailleurs, petite parenthèse, même si le maïs exige beaucoup d'eau, on va dire en tout cas en France, pendant l'été, le blé en demande encore plus, mais est allé tout au long de l'année. Bon, donc il y a ça, mais il y a aussi peut-être un certain taux de CO2 qui va freiner aussi la croissance.
C'est ça. Disons que leur capacité au maïs et au blé à supporter, à s'adapter à un taux de CO2 qui monte et à une température qui monte est plus faible que d'autres plantes comme le riz. Donc voilà, l'adaptabilité de ces plantes est sans doute inférieure, ce qui explique ces rendements dont la baisse devrait s'accélérer avec le temps.
En ce qui concerne la pêche,
À la pêche, ça par contre, il y a un peu de nouveau. Hein. Vous savez que les espèces du sud remontent vers le nord. Bien manifestement, ça s'accentue au point que les prises de la pêche pourraient baisser de 50% dans la zone tropicale et en particulier dans la zone la plus riche en termes d'espèces, qui est la province Indo-Pacifique, c'est-à-dire la zone qui va de l'Indonésie aux Philippines. Et là, ce serait dramatique parce que c'est là où la biodiversité marine se situe et puis c'est là où il y a des centaines de millions de personnes qui dépendent pour leurs protéines des ressources halieutiques.
Alors, on va revenir tout à l'heure peut-être sur la fonte des glaces après notre reportage. Les villes, comment ça va se passer puisque plus de 50%, on le sait aujourd'hui, de la population mondiale est dans les villes et puis ça va croître.
Eh bien, vous savez que les villes, ce sont des îlots de chaleur. On appelle ça en français les îlots de chaleur urbains. Donc une ville qui produit de la chaleur parce que c'est du macadam, parce que c'est du béton et parce qu'il y a la combustion des moteurs. Une ville polluée sous une chaleur qui augmente, c'est une ville encore plus chaude. Donc dans le GIEC, hein, on a des surcroît de hausse de température qui pourrait aller de 6 à 10 degrés dans certaines grandes villes, en particulier les villes très polluées d'Asie et également les villes du sud de l'Europe, dont des villes du sud de la France, ce qui remet en cause l'aménagement même, la construction même des villes et en particulier les réseaux, par exemple les réseaux d'adduction d'eau souterrains qui pourraient se retrouver perturbés.
Nous vous reprenons dans quelques instants, Frédéric oui. Danhé, donc restez avec nous et donc on va écouter ces trois femmes. Alors en fait, la chaire de développement durable de Sciences Po, le réseau Action Climat et l'association CARE ont organisé donc un rendez-vous avec donc des femmes qui vont nous expliquer comment elles sont directement impactées et directement concernées, elles, dans le monde. Nous, on peut se dire, ah bah oui, les primevères arrivent avec 2 semaines d'avance, etc. Bon, mais là, vous allez voir qu'évidemment, on est sur des choses quand même qui sont beaucoup plus contraignants. Donc des femmes de 3 pays témoignent face au réchauffement climatique. Et on va d'abord partir au Bangladesh, autrement dit au nord du golfe du Bengale. Juste un petit rappel, c'est un pays donc qui fait 144 000 km², 152 millions d'habitants aujourd'hui. 10% du territoire est situé en dessous du niveau de la mer. Et donc on va écouter Kukumoni, qui est Shanahara, pardonnez-moi, Katoum, qui est porte-parole d'une organisation communautaire et qui nous dit comment se manifeste pour elle au Bangladesh ce réchauffement climatique.
Donc c'est essentiellement depuis le cyclone Ayla que les changements sont vraiment notables. Depuis également 4-5 ans, il y a des changements importants en termes des saisons, de la régularité des saisons qui sont observables au Bangladesh.
Quelles sont les conséquences directes pour les personnes qui y vivent, aussi bien sur l'agriculture que sur les problèmes d'eau?
Chaque jour, ils sont obligés de marcher pendant 4 heures pour aller chercher de l'eau potable et la ramener au village. Il y a également des problèmes de salinisation des terres et de l'eau qui amènent des pertes de récolte de l'agriculture. Ça se traduit également par un manque de présence d'arbres. Les arbres ont disparu, le peu d'arbres qu'il y a ne produisent plus de fruits. In fine, ça a également eu un impact sur le bétail. Avant, chaque famille avait une vache, avait des têtes de bétail. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas à cause de ces questions.
CO2, mon amour, Denis Chessy.
Alors comment on envisage l'avenir? Comment on peut réussir à s'adapter sur un pays qui évidemment a une très forte population, sur un pays au départ qui est donc extrêmement plat, donc on sait que la mer avance, il y a ce phénomène de mousson, comment on peut s'adapter? Comment on envisage l'avenir?
Alors à ce stade, les communautés dont on parle n'ont pas la possibilité de migrer dans d'autres parties du Bangladesh pour acheter des terres et pour pouvoir s'installer. Donc leur seule solution, c'est de s'ajuster, de s'adapter au contexte local. Le gouvernement les aide en partie, notamment en leur donnant, en subventionnant des graines, de la pisciculture qui soient adaptées à ces nouvelles situations. Mais si ces stratégies échouent, elles n'auront d'autre choix que d'émigrer vers des pays où l'économie se porte mieux pour pouvoir trouver du travail.
Et Shanahara Katoum me disait aussi un peu au micro qu'elle avait peur que lorsque ces phénomènes qui sont accentués aussi chez nous toucheront donc davantage les pays riches, eh bien que les leurs soient évidemment oubliés. Autre pays, nous allons partir en Amérique du Sud. Et là, on va rejoindre America Casillo-Cunhas, qui est une agricultrice dans un village du Pérou. Et là aussi, eh bien, grande modification, comment on s'adapte et comment ce réchauffement touche le quotidien.
Mi nombre es América Castillo Cunguías.
Bon, bonjour, je m'appelle América, je viens du Pérou, de la zone de Junín, du quartier Chamiseria, dans la province de Huancayo.
Sobre el cambio climático.
Par rapport au changement climatique, la conséquence la plus dure, c'est le manque d'eau, suite au déglacement du glacier, justement. Donc on souffre des saisons où on n'a pas assez d'eau pour alimenter nos familles. Donc ça, ce qu'on est en train de faire, c'est la réforestation avec la culture des pins.
Pour pouvoir retenir l'eau.
Pour pouvoir retenir l'eau, justement, et garantir des lots pendant la période de sécheresse, qui est très forte, contraire à la période des pluies, où c'est beaucoup plus forte encore.
Et avant, donc, c'était beaucoup mieux régulé, c'est-à-dire que le glacier envoyait son eau, on va dire, normalement, et là, maintenant, tout a changé.
Il y a environ 5 ans, il était encore le glacier qui nous fournissait de l'eau, normalement. Et donc, il y a beaucoup de rivières qui étaient desservies par cet glacier. En ce moment, ce n'est pas le cas. On ne compte pas sur la même réserve d'eau. Donc, on risque de, avant 30 ans, le perdre complètement. Parce qu'il y a des pics de chaleur et qui n'étaient pas non plus comme avant. Et aussi des températures très basses qui affectent aussi les cultures qu'on a dans la région.
Alors, comment fait-on maintenant pour s'adapter quand on est donc agriculteur, quand on est éleveur à plus de 2500, 3000 mètres d'altitude, face à donc ces événements? Quelle stratégie adopter lorsque l'on cultivait des pommes de terre, de l'orge, de l'avoine, que sais-je?
Nous, on fait plutôt variété des produits laitiers qui nous permettent une production assez différente dans les produits, donc tout ce qui est fromage et produits laitiers de ce côté-là. Ainsi, nous avons des cultures de la quinoa, mais aussi des produits comme la laitue. Mais ce qui concerne le changement d'adaptation, on a une nouvelle type de pommes de terre native qui a été adaptée au changement climatique, donc qui est forte aux sécheresses et au changement du climat, qui fait que ce n'est pas affecté par les différents changements climatiques.
C'est une variété ancienne, d'ailleurs.
C'est une variété ancienne qui a été reprise parce qu'on ne le faisait pas avant. Oui. Ça a été reprise, donc maintenant, on essaie de le répandre dans toutes les régions à côté pour que ça soit un peu le banderole pour faire face à ces changements.
D'où l'intérêt de garder des variétés anciennes et de garder les savoirs anciens.
Justement, c'est ce qu'on essaie de faire avec le projet qu'on a dans la région, dans l'association justement, c'est de révaloriser ces semences qui étaient auparavant cultivées
délaissé,
par les
oui.
Voilà, et que maintenant il faut les reprendre justement pour les mettre en place et les valoriser pour qu'ils fassent face aux changements.
Quel est le rôle du cochon d'Inde? Racontez-nous.
Le lugar del cuy. Nosotros lo criamos en mi comunidad.
En fait, avant, c'était pas comme maintenant. CARE nous a aidés avec des modules de formation sur l'élevage des cochons d'Inde, justement pour diversifier la nourriture qu'ils donnons à nos enfants, mais aussi pour pouvoir les vendre et laisser un peu pour nos revenus propres. Donc, grâce à ça, maintenant, on a des élevages des cochons d'Inde qui nous diversifient un peu les produits sur lesquels on a un impact sur la communauté, mais aussi pour les vendre ailleurs.
L'avenir, comment on peut l'envisager? On a des enfants, donc comment on envisage ça?
L'avenir, c'est un peu compliqué d'écrire parce qu'on voit, c'est évident qu'en ce moment, il y a beaucoup de pollution, on n'a pas beaucoup d'eau. Et pour les prochaines générations, ça ne va pas être évident. Donc c'est important de nous mobiliser, de commencer avec la forestation possible dans les pays du Sud pour garantir qu'il y a au moins des mesures d'impact à long terme pour la nouvelle génération.
Juste qu'elle nous décrive ce lieu de cette cordillère des Andes, donc dans la province de Huancayo, à quoi ressemble Chamiseria?
La montagne en las mañanas, cuando amanecemos.
Le matin, quand on se réveille, il y a beaucoup de brume plutôt foncée qui est due à l'exploitation minière. Donc c'est dommage.
Qu'est-ce qu'on exploite d'ailleurs là-bas?
C'est du charbon, basiquement, et c'est dommage, mais cette exploitation minière à côté de nos communautés fait qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, notamment un peu engrissaillées, qui font qu'on voit ça le matin.
Qu'est-ce qui vous relie profondément à la nature?
Il y a trois choses qui me relient à la nature. C'est justement le fait de cultiver, d'avoir des cultures différentes, le fait d'élever des aliments et aussi les compromis de la réforestation.
On imagine bien, donc, au-delà de la conscience planétaire, ce que l'on peut attendre dans cette région des Andes, C'est qu'il y a vraiment de véritables actions.
Oui, ben justement, c'est l'engagement ponctuel de chaque communauté qui est en face de réalités précises. Comme elle vient de le dire, on n'a pas d'eau où on l'avait avant, on voit différences concrètes. Donc c'est tout d'abord l'organisation communautaire, parce qu'il n'y a pas d'organisation, les effets ne vont pas se voir. Donc elle est la présidente de l'association d'agriculteurs de la zone, qui fait qu'il y a une mobilisation ensemble. Une fois les gens sont organisés, c'est plus facile de faire passer les messages et d'avoir des actions ponctuelles. Là, les cas ponctuels, c'est la réforestation et l'insertion des semences des pommes alternatives qui vont faire la différence par rapport à d'autres produits.
Alors Frédéric Danhé, vous qui écoutez cela depuis La Rochelle, depuis le salon Terre-et-Lède, je ne sais pas d'ailleurs si ce sera un des thèmes, mais en tout cas, on est vraiment au cœur, Frédéric, de cette bascule du monde. Et donc, beaucoup de pays sont affectés, on l'a bien compris, avec des forces plus ou moins évidentes, mais en tout cas, c'est bien là. Que peut-on dire sur ces différents pays ?
Eh ben, là, c'est exactement ce que montre ce rapport, c'est-à-dire que l'eau sera bien le facteur limitant, qu'elle soit en trop, comme au Bangladesh, ou qu'elle ne soit plus assez présente, comme au Pérou. Au Bangladesh, on a la juxtaposition de la fonte des glaciers qui augmente le débit des rivières, d'une modification du régime des moussons, et en plus de l'eau qui monte, de l'eau salée qui monte dans les deltas, et qui grignote ce pays à fleur d'eau. Donc, le risque inondation, il est majeur, il est maximal. Au Pérou, la fonte des glaciers a comme effet que y a moins d'eau finalement maintenant qui s'écoule des rivières, de l'eau qui parfois est retenue par des barrages, qui tout d'un coup s'ouvre et qui crée des inondations. Derrière tout ça, c'est un problème derrière l'eau, c'est le problème de l'accès aux ressources alimentaires, parce que c'est une agriculture qui est entravée de fait. Au Bangladesh, on ne voit pas comment ils pourraient s'en sortir. Au Pérou, ils le peuvent, et on ressort des variétés anciennes, on adapte les pratiques culturales à des sols qui seront de plus en plus secs. C'est vraiment un bouleversement complet, mais on voit bien, et j'insiste là-dessus, que c'est l'eau qui sera le facteur limitant et dominant pour notre avenir.
Et lorsque l'on parle aussi de l'Asie, on rappelle que 40% de la population mondiale dépend au fait de ce très grand massif de l'Himalaya. Donc là aussi, c'est-à-dire d'avoir la crainte d'avoir trop d'eau d'un côté et puis peut-être pas assez de l'autre.
Oui, puis trop d'eau d'un côté, si les glaciers, si l'Himalaya continue de fondre, au bout d'un moment, effectivement, il n'y aura plus suffisamment d'eau. Et on finira par avoir un effet à la péruvienne, peut-être à la fin du siècle, vous voyez. Mais en tout cas, ça semble être inéluctable. Vous l'avez dit, la majeure partie des habitants du Bangladesh et du nord de l'Inde et d'une bonne partie de l'Asie dépendent de l'Himalaya, dépendent des rivières qui trouvent leur source dans la fonte des neiges et des glaces sur l'Himalaya.
Frédéric Danhé, parlons aussi quelques mots quand même de l'Australie, parce que ça a été bien pointé par ce cinquième rapport du GIEC, ce deuxième volet du rapport.
Exactement, ils insistent beaucoup sur l'Australie et sur l'Amérique, en particulier l'Amérique du Nord. L'Australie, il y a deux risques. Deux risques contradictoires, c'est risque inondation, notamment à l'est du pays, et un risque de sécheresse avec des incendies, notamment des incendies de forêt, risque majeur. Voilà, l'Australie, c'est un des pays qui va le plus se réchauffer, c'est un des pays, pour le coup un des pays les plus riches du monde, un des pays qui va le plus souffrir du manque ou du trop d'eau, et c'est un des pays qui va le plus souffrir de l'augmentation du risque d'incendie de forêt. Et puis, dans la partie maritime, on voit que le blanchiment des coraux, qui n'est pas lié au réchauffement climatique, est en train de s'accélérer. Et vous mettez ça en relation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette migration des poissons vers le nord. Les Australiens s'inquiètent de la disparition accélérée de leurs ressources halieutiques à cause de ces deux phénomènes.
Je vous propose de partir sur le continent africain. Et nous allons partir maintenant au Tchad, rejoindre Hindou Oumarou Ibrahim, que j'ai eu donc l'occasion, grâce à l'IDRI, je le rappelle, grâce à la chaire de développement durable de Sciences Po, le réseau Action Climat et l'association Care France de rencontrer. Cette femme est porte-parole des femmes autochtones de la communauté Peul Mbororo. Et donc là aussi, comment ça se passe? Quels sont les exemples que vous pouvez nous donner?
Si je prends l'exemple de ma communauté, qui sont de populations nomades et éleveurs de bétail, on voit l'impact sur la pluviométrie qui a changé de période, qui ne vient pas du tout au même mois exact qui était de l'année et qui ne dure pas pendant 4 jusqu'à 6 mois comme avant. Ça dure 3 mois et même minimum. Et puis on a la pluie, quand elle arrive très très forte et elle part avec tout. Et puis, on reste une prochaine semaine, il n'y a même pas de pluie, il y a que du soleil intense. pour les agriculteurs, si l'on s'émet déjà, ça devient sec. Et si l'on s'émet au mauvais moment, il y a l'inondation, alors ça inonde tout. Et pour les éleveurs, il n'y a plus de pâturage et il y a des inondations dans des accès très difficiles pour le bétail. Et on voit aussi l'impact sur la végétation. Il y a certaines variétés des herbes qui ont carrément disparu dans certaines régions, dues à ces inondations ou bien à ces sécheresses qui assèchent tout et dont les petits fruits de ces herbes ne tombent pas et ils ne se reproduisent pas. Mais il y a réapparition de nouvelles herbes et ça, ça ne donne pas vraiment de bonnes herbes pour le bétail. Alors ça peut créer des maladies. On trouve maintenant des animaux très malades et même les humains qui sont exposés à beaucoup de maladies qui n'étaient pas beaucoup fréquentes dans les communautés.
Ouais, donc ça touche directement aussi la santé, au-delà de l'aspect purement alimentaire. Alors comment on peut faire, comment on tente de s'adapter dans ce genre de cas? Parce que je veux dire, la pauvreté déjà existe, et puis on a donc maintenant ce climat qui bouge, cette eau qui devient à la fois folle, ou bien en tout cas qui ne l'est pas assez. Donc comment on fait pour s'adapter?
Alors, dans les communautés, il n'y a pas de moyens miraculeux, mais il y a des connaissances traditionnelles qui ont développé au cours des années. Alors, l'effet de migrer, au lieu de migrer horizontalement, les gens essaient de migrer verticalement. En fait, normalement, c'est du nord vers le centre, voilà. Et puis de l'est vers l'ouest. Mais maintenant, les gens migrent beaucoup plus du nord vers le sud pour laisser l'autre endroit à mieux régénérer afin de revenir quand la saison devient plus dure, parce qu'il y a beaucoup plus de végétation là-bas. Mais le problème en est qu'on rencontre beaucoup de conflits là-bas, parce que c'est des zones beaucoup plus agricoles que des zones pastorales. Et là, il y a un accès sur la biodiversité, sur les ressources naturelles qui est très intense. Alors du coup, les communautés utilisent les connaissances traditionnelles de séjourner différemment, de diviser les communautés, mais de diviser aussi les cheptels. Que les cheptels les plus forts, ils marchent plus loin, et les cheptels les moins forts et quelques vaches, ils marchent dans des endroits un peu plus près pour pouvoir nourrir les enfants et les personnes âgées. Et les cheptels qui détruisent beaucoup plus, comme les chèvres, on les amène dans d'autres endroits, là où ils ne peuvent pas manger tout. Et comme ça, il laisse à la nature de se régénérer. Et sur cela, il y a aussi la liaison entre les connaissances traditionnelles et les connaissances scientifiques, dont nous avions pu faire la cartographie participative à 3 dimensions, qui est construite par les communautés elles-mêmes, afin de gérer équitablement les ressources naturelles. C'est vraiment de très bonnes innovations. Mais la question en est, est-ce que ces innovations seront durables si on ne protège pas le climat au niveau global?
Quelle est justement votre réaction, puisque, même question avec qu'à notre amie péruvienne, mais lorsque l'on sait que quand même ce sont les pays occidentaux qui ne le savaient pas forcément quand ils se sont développés, mais qui ont donc envoyé tout ce surplus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à partir des ressources carbonées. Donc qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui?
Alors pour que ces pays-là soient équitables à d'autres, ils doivent reverser de fonds. Ils doivent les aider à mieux s'adapter. Les aider à mieux s'adapter, c'est à travers le transfert de la technologie, mais pas n'importe quelle technologie. On a besoin de technologies qui sont durables, qui sont propres, adaptées, pour ne pas encore reconnaître les mêmes bêtises que les pays occidentaux ont fait sans les savoir. Et puis, il faut aussi les transferts de fonds, mais ça, c'est très urgent. Les communautés sont en train de mourir. Maintenant, c'est une question de survie. S'il y a l'inondation, s'il y a la sécheresse, je n'ai plus à manger. Alors, je ne pense plus à mes bétails, mais je vais penser à moi, comment je vais survivre. Et alors, à mes enfants qui sont encore jeunes, comment ils vont faire? On parle du fonds vert. On a vraiment des très jolis noms. Fonds vert, fonds d'adaptation, fonds d'atténuation. Mais alors, à l'intérieur, c'est quoi? C'est pas la coquille qu'on en a besoin. On en a besoin de cet argent, et que cet argent va directement à des actions bien concrètes qui pourront aider aux communautés de bien développer afin d'atténuer tous ces climats.
Hindou Marou Ibrahim, donc au Tchad, représentant sa communauté Peul. Petite réaction, Frédéric Denry.
Ben, écoutez, elle a dit ce qu'il fallait dire. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour s'adapter. Il y a l'IRD qui travaille en ce moment, par exemple, sur le lac Tchad, dont la surface évolue régulièrement, qui n'est pas forcément liée au changement climatique, mais ils se sont rendus compte que, à chaque fois, les populations locales avaient réussi à trouver le moyen de s'adapter en changeant leurs pratiques de l'élevage, en changeant leurs pratiques culturelles et en changeant leur façon de se partager les ressources. Voilà, il y a des solutions, mais pour que ces solutions soient plus faciles à trouver, il leur faut un peu d'argent. Oui. C'est juste un peu, il n'y a pas besoin de dépenser des milliards pour les gens du Tchad. Juste un peu d'argent et un peu d'aide et de soutien.
Alors revenons aussi un peu en France par rapport donc à ce rapport du GIEC, avec là aussi, on va dire, des contrastes, des inégalités, on va dire, de température en fonction des régions. On va peut-être pointer sur une qui est sûrement la plus chaude de France, qui est celle de l'Aquitaine, il y a Midi-Pyrénées et l'Aquitaine.
Oui, alors l'Aquitaine, il y a un rapport qui vient juste de sortir sous la direction d'Hervé Le Trotte qui ne concerne que l'Aquitaine et qui est assez fabuleux parce qu'il traite tout. L'Aquitaine, c'est entre Bordeaux plus 1 degré et Bayonne plus 1,65 degré depuis un siècle. C'est une des zones qui s'est le plus réchauffée en France. Ce qu'on y voit, c'est que d'un point de vue météo, on est plus maintenant sur un régime anticyclonique, ce qui a comme effet d'accentuer les vents en été, de les diminuer en hiver. Et puis surtout, il y a une modification, par exemple, une baisse de l'énergie des vagues et en même temps les vagues qui s'orientent différemment, ce qui modifie un peu ce qui se passe sur les côtes et ce qui accentue l'érosion, par exemple, dans le Pays Basque. Ce qu'on y voit et l'alerte qui est donnée pour l'Aquitaine, c'est pareil que dans le monde entier, c'est une baisse du rendement de 16 à 25% sur le maïs et sur le blé. C'est le vin qui est quand même menacé, même si les viticulteurs ont adapté leurs pratiques. Mmh. C'est le vin qui est menacé. On se demande si on ne va pas introduire le Touriga national, qui est un cépage portugais. C'est un risque incendie qui augmente de plus en plus. Il y a la Côte d'Azur, il y a la Croatie, par exemple, en Europe, et il y a le Bordelais, il y a la Gironde. Qu'est-ce qu'on a ? On a une menace dans la structuration des peuplements forestiers. Vous savez que le chêne vert et le pin maritime envahissent de plus en plus, remplacent le chêne pédonculé, le chêne sessile. Et là, il y a une bête question sociale, par exemple, c'est que les forêts, 92% de la surface de la région sont gérées par 128 000 propriétaires. Donc, faudrait changer les pratiques, changer les mentalités, mais avec 128 000 propriétaires, ça va pas être simple. Voilà ce que met en exergue le réchauffement climatique. C'est bien les fondements économiques d'une région, l'organisation sociale. C'est ça que, ça ne fait qu'accentuer l'existant, le changement climatique.
Une fois de plus, on le rappelle, c'est pas forcément des phénomènes nouveaux, mais ça accentue l'existant et avec, évidemment, un réchauffement depuis une trentaine d'années qui est extrêmement important. Écoutez, merci Frédéric Dandré. Profitez bien, d'ailleurs, on fait profiter nos amis auditeurs qui vont venir vous voir, donc au salon Terre et Lettres de La Rochelle. Et puis, à très bientôt. Puis j'en profite aussi pour vous dire que dans l'Allier, vous avez un très beau aussi festival qui est celui des rencontres cinéma-nature. C'est à Dompierre sur Bèbre. C'est les 25e rencontres, je tenais à le dire, parce qu'ils font aussi un boulot tout à fait formidable.
Mais écoutez, les enfants, il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est primordial. Il faut qu'on se réveille. On est au bord du précipice et ça, il faut bien qu'on se le mette dans le pont.
J'ai pas dit une chance.
Le capital, tu l'as dit, le capital, c'est foutu.
Ah oui, ça, c'est
bon. La société de consommation, c'est foutu. Les voitures, c'est foutu.
CO2, mon amour, Denis Chesson.
C'était Daft Punk. Ben oui, Daft Punk quand même sur France Inter, bien sûr, phénomène, on va dire, planétaire. Bravo à ces petits jeunes qui s'exportent merveilleusement. On va s'intéresser justement maintenant à d'autres jeunes, ça c'est très intéressant. Vous voyez, c'est un peu le choc des cultures, parce que là on va s'intéresser au transport grâce à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Estaca, ainsi qu'un lycée qui s'appelle la Joliverie à Nantes. Et tout ce petit monde s'intéresse au transport aéronautique, automobile, spatial et ferroviaire. Donc là, c'est toujours notre séquence à Monde en Marche. Et donc, ils ont présenté au Parc Floral de Vincennes, dans la perspective du prochain Shell Eco Marathon Kesako. C'est une compétition automobile annuelle. Alors, ce n'est pas la compète qui est intéressante. Le but, c'est de parcourir la plus longue distance avec un litre de carburant. C'est réservé aux étudiants de tous les niveaux, de tous les pays. Ils ont entre 17 et 25 ans à peu près. Et donc, c'est des prototypes qui sont construits dans les structures scolaires et universitaires. Et cela n'a pas échappé à la sagacité de Stéphane Combe.
Accélérer en même temps. Voilà. Voilà. Et c'est parti pour deux tours de circuit en plein à Paris.
Notre véhicule, il est tout en fibre de carbone, il ne pèse que 35 kg.
On dirait une petite fusée en fait, hein. Il est très pointu.
On fait la forme la plus aérodynamique possible, c'est pour ça qu'on a trois roues, avec les deux roues directrices à l'avant. Et donc la roue motrice couplée au moteur à l'arrière.
Donc on va aller voir le moteur qui est à l'arrière. Alors vous enlevez le capot.
Donc vous avez le réservoir qui contient à peu près 3 centilitres d'essence.
Ça c'est le sur la gauche, là, cette espèce de petite ampoule, c'est le réservoir d'essence.
Ouais, ça c'est le réservoir d'essence, oui. Qui fait 3 centilitres. Et avec ça on fait environ 50 km.
Donc cette petite ampoule d'essence. Ouais. Alimente ce moteur qui ressemble comme ça, ça ressemble à un moteur de mobylette. Hein,
Alors c'est un moteur maison en fait, donc c'est un moteur 4 temps, donc avec des arbres à cames en tête. Donc il est entièrement conçu par les élèves. Il est très léger, il doit faire 6-7 kg maximum. Il a été usiné par contre par un professionnel parce qu'on n'a pas à l'école les outils nécessaires pour le faire. Et en fait le secret du résultat consiste à utiliser le moteur le moins de temps possible. C'est-à-dire que le moteur on le démarre pour 5 secondes, ensuite on le coupe. Et pendant 2 minutes, on tourne en roue libre sans rien consommer. Du coup, on consomme très peu d'énergie.
Nous, on coupe le moteur 97%
du temps. 96% du temps.
Ouais, 97% du temps.
En gros, c'est comme si vous utilisiez le moteur uniquement pour les relances et que vous mettiez au point mort pour continuer à rouler.
Alors avec ce véhicule à trois roues là, de l'école d'ingénieurs de l'Estaca, vous arrivez à faire quelle distance à peu près?
Notre record est de 2701 km avec un litre d'essence.
On va avancer un petit peu là sur l'avant du véhicule.
C'est le cockpit.
Le cockpit, oui, tout à fait.
Et surtout, très important, des cloisons pour protéger le pilote des roues, pour éviter que le pilote pousse les roues à la main pour faire accélérer le véhicule.
Alors évidemment, nous, on fait des stratégies pour le pilote. On lui dit en gros quand allumer le moteur et quand le couper. On utilise le moteur 5 secondes et on fait 2 minutes de roue libre. Mais dites-moi, là, lorsqu'on regarde le cockpit, c'est pas très très grand là. Il faut faire quelle taille là pour
piloter ? Alors idéalement moins d'1m60 et aussi moins de 50 kg.
Bon, Romain, on met le capot.
Donc des véhicules comme ça, les meilleurs sont effectivement aux alentours des 2500, 3000 km pour un litre d'essence. La performance moyenne des élèves va se situer à 1000, 1500 km pour la grande majorité. Quoi.
La compétition existe depuis 1985, il y a 30 ans, on faisait quelle distance avec un litre d'essence ?
Il y a 30 ans, les meilleurs faisaient 800, 900 km.
Alors on peut comprendre que ça soit un plus pour les étudiants qui sont en école d'ingénieur, en IUT. Pour monsieur et madame tout le monde qui utilisent des voitures, est-ce que ce type de compétition, on utilise un minimum d'essence pour faire un maximum de distance, est-ce que ça peut apporter quelque chose ?
Ça sert déjà, premièrement, à faire réfléchir les gens. Mais par contre, effectivement, les concurrents utilisent ce qu'on appelle le stop and start depuis des années. Beaucoup de voitures maintenant, la plupart des nouvelles voitures ont un système stop and start. Donc quand vous êtes arrêté à un stop, un feu, le moteur se coupe. Il n'a aucune raison de fonctionner, vous êtes à l'arrêt, donc le moteur redémarre. Mais il y a aussi des stratégies qui commencent à venir, pour l'instant on est sur des modèles très performants, haut de gamme, sans que le conducteur s'en rende compte, mais le moteur se coupe. On est sur l'autoroute à 130 km/h et la voiture a suffisamment d'inertie pour avancer d'elle-même. Le moteur s'arrête sans que le chauffeur s'en rende compte et redémarre quand c'est nécessaire. Et là, on fait de grosses économies d'énergie.
Et donc vous avez devant vous le véhicule City Joule, qui est un urban concept.
le prototype qui ressemble le plus à un véhicule de tous les jours. On a fait 1311 km avec l'équivalent énergétique d'un litre d'essence.
En fait, on parle d'équivalent d'un litre d'essence, puisqu'en fait, on roule, nous, à l'hydrogène.
Dans la zone où se trouve le moteur, il n'y a pas de moteur à explosion.
Non, il n'y a pas de moteur. Alors, les piles à combustible, ce sont des appareils qui fabriquent de l'électricité à partir d'hydrogène et d'oxygène. Donc, on n'émet vraiment que de l'eau.
Quand on met de l'énergie dans notre véhicule, on en récupère 60%. Alors que dans un véhicule à moteur à combustion interne, on n'en récupère que 30 à 40%.
Le gros avantage aussi des piles à combustible, c'est bien entendu que ça n'émet que de l'eau. Donc, ce n'est absolument pas polluant.
CO2, mon amour.
Et ben voilà, on descend de la voiture. Alors évidemment, tout ceci, on l'a bien compris, ce sont des prototypes, mais c'est quand même intéressant de se dire que peut-être quand même un jour... C'est le livre de Frédéric Danhé, La fin du tout voiture, ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de la voiture. Mais aujourd'hui, on est dans la mobilité plutôt que, on le sait, dans l'appropriation de l'objet. Donc tout ceci évolue, c'est intéressant d'avoir des paroles de jeunes. Merci à Stéphane Combe.
Money 1922, you let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here, get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get on out of here, get me some money too. Ago, you wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get on out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do.
Pourquoi se priver de ce plaisir ? C'était Hélène Méril, choisie par notre programmateur Thierry Dupin. Et maintenant, on va le dire en fin d'émission avec des orties. Car demain, 6 avril, pas très loin de Honfleur, à La Haye de Routot, eh bien, l'ortie va être à l'honneur. Bonjour Michel Lesage.
Bonjour Denis.
Alors Michel, donc c'est la 19e édition d'Ortie Folies. Autrement dit, l'ortie mise en avant. Quelles sont les qualités de l'ortie, s'il vous plaît ?
Alors l'ortie, c'est un stimulant pour tout ce qui est vert, mais aussi pour les humains. Pour les animaux, c'est une plante absolument méconnue de nos jours, une plante qui se mange, qui sert à fortifier tout ce qui pousse, les arbres, les légumes, les plantes d'appartement, les plantes d'ornement, tout ça. On en faisait aussi autrefois de la toile, puis c'est une plante médicinale qui nous garde en super forme, la frite.
Oui, alors la frite d'ortie peut-être, enfin en tout cas il y a le purin d'ortie que nous connaissons bien et qui a aussi été extrêmement décrié. Alors où en est-on avec ce purin d'ortie qui parfois gêne peut-être certaines personnes qui ne voudraient pas le voir en vente ?
Oui, voilà, donc on est toujours en attente de l'autorisation de mise sur le marché Et puis évidemment, il y a certains gros crocodiles qui refusent absolument que les petites bêtes comme nous aient droit au chapitre et essayent de faire interdire purement et simplement tous les produits naturels à base de plantes, mais aussi le vinaigre blanc, le sucre, l'argile, enfin tout ce qui est naturel et tout ce qui fait partie de notre patrimoine.
Alors évidemment, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Évidemment, il faut savoir s'en servir, on le sait. Et dans cette hortifolise, eh bien, vous avez des conseils, vous avez des balades vertes, vous avez de la cuisine. On peut fabriquer du pain de l'ortie, de l'ail des ours.
On est aussi le village des deux arbres millénaires avec chapelle.
Ah, donc nous avons un if qui a 1500 ans.
Oui, alors en fait, on est riche, on a même deux ifs. Ils ont 1500 ans tous les deux et leur tronc s'est creusé naturellement à travers les âges. Il y a des chapelles qui ont été installées dans les troncs au 19e siècle.
Et donc, voilà, donc hortifolise, vous l'avez compris, c'est demain. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Si, tout à fait. D'abord, effectivement, le 01 56 40 35 refonctionne parce que la semaine dernière, on vous avait dit, vous pouvez laisser vos messages sur le printemps. Et en fait, on ne s'en est pas rendu compte, ça ne marchait pas. Voilà, parce qu'en fait, c'est vous qui nous avez prévenu que l'affaire fonctionnait. Donc, on vous présente toutes nos excuses. Et maintenant, vous pouvez de nouveau laisser vos messages à tous les étages au 01 56 40 40 35. Donc retenez bien ce numéro. Possibilité bien sûr pour vous de réécouter l'émission, de la podcaster et puis de converser. Donc vous n'hésitez pas, hein, le site est fait pour ça. franceinter.fr, donc tout va bien. Merci à Aveline Carmois et Benjamin de la Gâtinais aujourd'hui à la technique. Merci à Stéphane Combe, Maëlène Biziot qui a donc réalisé cette émission. Je n'oublierai pas Albert Hook du Maine-et-Loire. Ah oui, un petit coup souchon là.
La nuit, les oiseaux perdent leurs plumes. Au clair de la lune, les avions s'allument. Sur prairies, sur forêts, sur coccinelles poussent des cancers cruels. La ville est nouvelle, elle est nouvelle. Le monde change de peau. Sera-t-il laid ou bien beau? Couvert de couleurs, peinture ou de vert nature. Le monde change de peau, roudoudou et berlingot. Sera-t-il doux et sucré comme la liberté? Qui joue quand les enfants s'amusent à mettre des pierres, des méduses sous leurs pieds? Dans les journaux et sur les ondes, on sent qu'un monde vient au monde. Soit trop tard ou trop tôt, le monde change de peau.
Chanson tout à fait visionnaire, hein, avec une musique de Michel Jonas. Hélène Bisio s'est dit, pour terminer, ouais, c'est bien d'avoir cette couleur-là et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Donc, merci à tous. Vivre avec les bêtes, ce sera demain dimanche à 15h avec Anna Bougrain-Dubourg. L'atout du bon petit loup, ça reprend parce qu'on a eu deux semaines d'élections municipales après les petits bateaux à 19h54. Et puis, la semaine prochaine, il y aura encore d'autres éléments. Il y aura entre autres un reportage, nous irons dans le Lot-et-Garonne sur une réserve naturelle qui s'appelle la réserve de Mazières avec un travail très très intéressant. Denis Chessou, je vous souhaite un bon week-end.